Bon, et maintenant, tous ensemble.
Vous venez avec nous?
Allons.
Bien sûr, l'aventure continue.
Maintenant, je fonce, Alphonse.
Ah, c'est bien, alors, allez, on y retourne.
Les Mayas en avaient fait la boisson des dieux, les Européens en sont devenus fous et aujourd'hui, les Chinois sont en train de succomber à ces saveurs. Le chocolat a conquis le monde. Mais pour s'approvisionner, il faut continuer à aller là où poussent les cacaoyers, sous les tropiques, en Amérique du Sud ou en Afrique. Pour cette deuxième heure, nous partons pour une exploration gourmande à la rencontre des producteurs de chocolat, des meilleurs crus du monde et de l'histoire de cette denrée si singulière. En compagnie du pâtissier chocolatier Pierre Marcolini, auteur de Chocolat, carnet de voyage aux éditions de La Martinière, et de l'historien de l'alimentation Éric Birloise, dont on peut lire un article « Le chocolat, goûter divin à la cour des rois » dans le troisième numéro de la revue Relief. Et puis en fin d'émission, nous tenterons de joindre Alban Tessier, malvoyant. Il tente actuellement, seul et à pied, la traversée du plus grand désert de sel au monde, le désert d'Uyuni en Bolivie. Voilà pour les grandes étapes de la deuxième partie de notre bivouac.
On a deux variétés de cacao, chuncho et hybride. L'hybride, c'est de la bonne qualité, mais la meilleure qualité, c'est le chuncho. Le cacao chuncho a tendance à avoir différentes saveurs. Il peut avoir un goût de banane, de rose et même un goût de mangue.
Nous démarrons au Pérou, évidemment, pour parler de ce chocolat. Pierre Marcolini, vous vous rendez régulièrement, hein, encore aujourd'hui, en Amérique latine. Vous sélectionnez là-bas des variétés de fèves qui vous permettent de produire vos grands crus. C'est encore un bon endroit pour s'approvisionner en fèves de cacao, l'Amérique latine.
C'est à mon avis le meilleur endroit. Je pense que la naissance du cacao, et notre historien nous le dira, c'est l'Amérique latine. Je pense que c'est là où on va trouver toute l'histoire du cacao. C'est là où on va trouver effectivement toutes les origines du cacao, ce qu'on appelle les cacaoyers natifs. Vous parliez du Pérou. J'ai eu l'occasion d'aller dans le nord du Pérou et on a sélectionné des fèves de cacao du côté de Alto Puila. Mais si on va plus loin, du côté de l'Équateur, on est chez Pedro Martinetti, dans la région de la vallée de Los Rios, avec une fève de cacao particulière qui s'appelle le Nacional Équateur, et qui est une fève de cacao qui a des premières saveurs où on a des notes de café, on a des notes un peu florales. Et j'entendais ce que disait le planteur. Alors c'est vrai que pour les gens, ils doivent se dire, mais c'est étrange de goûter de la banane, de la mangue, alors que quand je prends une tablette de chocolat noir, grand cru d'origine, tout ça n'est pas forcément au rendez-vous. Et en réalité, il y a, quand vous avez l'occasion d'être dans les plantations, et que vous ouvrez la cabosse, donc ce fruit
du cacaoyer,
les premières odeurs que vous allez avoir, c'est effectivement des odeurs qui sont plutôt de notes florales, du jasmin, de la rose. Et puis vous avez ce qu'on appelle le musillage, qui ressemble un peu à du litchi, si vous voulez. Et quand vous mettez ça en bouche, d'abord c'est hyper frais. Il y a des notes acidulées assez fortes. On se rafraîchit avec ça. Et puis effectivement, tout ce qu'il vient de vous dire arrive là. Vous avez des notes d'ananas frais, vous avez des notes de banane, vous avez des notes de mangue qui sont là. Alors, les gens, pour revenir à ça, c'est que les gens vous parlent toujours de pourcentage de cacao. Ouais. Ils vous disent, ah, Pierre, j'ai goûté un chocolat, 72% de cacao, puis on a une espèce de surenchère qui se met autour de la table. Non, attends, moi j'ai goûté 80%, et qui est plus fort? Ouais. Et donc, j'ai envie de vous dire, et vous m'en voulez pas, mais stop, c'est aussi ridicule que de me dire, Pierre, j'ai bu une très bonne bouteille de vin et je crois qu'elle tirait à 12,5 d'alcool. On n'a aucune information et on revient. Et vous avez aussi une formation d'agronome, donc vous acquiescez dans ce sens.
C'est Éric Birloise que vous avez dit. Je n'ai pas de formation d'agronome.
C'est Éric, effectivement. Et les gens oublient une chose, on est dans du végétal. Le sol va imprimer quelque chose, le type de cacaoyer. Et je me souviens d'avoir fait une conférence et de dire à tout le monde, vous connaissez le chocolat? Oui. Et quand on parle du vin et qu'on dit Cabernet, Syrah, Mourvèdre, tout le monde comprend. Et on revient vers ça. Et la première impression que j'ai eue en Amérique latine, c'était vraiment de me dire, tiens, je voudrais absolument des fèves de cacao. Et la personne m'a dit, du Criollo, du Forastero, du Trinitario, du National Équateur, du Sud des Lagos, du Carenero, du Puerto Cabello.
Ce sont toutes les variétés qui existent.
Toutes les variétés qu'on peut avoir. Ouais. Et aujourd'hui, il y a une, tout doucement comme ça, il y a une révolution qui se met en place où les gens vont commencer à découvrir effectivement qu'il y a un pourcentage de cacao qui va indiquer le cacao qu'on va y mettre, et s'il est marqué 72, eh bien, il y a 28% de sucre dans un chocolat noir. Mais par contre, on commence à comprendre qu'il y a des cépages de cacao, ouais, comme il y en a dans le monde du vin. Et c'est eux qui vont imprimer effectivement toutes ces nuances, toutes ces cette variété aromatique. On va passer du côté herbacé, on va passer du côté floral, on va passer du côté fruité, on va passer parfois à des notes de sous-bois. Et c'est ça qui est magnifique.
Et puis il y a aussi la façon de le cuisiner, de les accommoder, ces fèves de cacao. Alors notamment, je crois que c'est au Mexique, hein, on reste toujours en Amérique latine, au Mexique, vous avez mangé, c'est le plat qui vous a le plus marqué en voyage, un poulet qui était cuit.
Exactement. Alors, comment vous savez ça?
Parce que c'est écrit dans le livre. Il se trouve que je l'ai lu.
Non. Alors, c'est une des premières rencontres. On est donc le Mexique. Il y a deux régions qui produisent du cacao. Il y a la région du Chiapas. Ça produit aussi de temps en temps des révolutionnaires, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Et de l'autre côté, la région de Tabasco, capitale Villa Hermosa, est une des premières rencontres il y a plus d'une dizaine d'années avec une dame fabuleuse qui s'appelle malheureusement décédée, mais sa fille a repris la plantation, Clara Echevarria, et qui fait ce qu'on appelle du porcelana. Alors porcelana, on entend déjà le mot porcelaine. Et pourquoi porcelana et porcelaine? Parce que c'est un 100% criollo. Criollo, c'est 2% de la production mondiale. C'est la quintessence de la fève de cacao. C'est ce qu'il y a de plus fin, c'est ce qu'il y a de plus délicat. Et évidemment, ça produit moins. Mais par contre, c'est tellement subtil, c'est tellement beau.
Ça veut dire que quand... Alors pardon, je vous interromps, mais j'en profite pour avoir le petit conseil. Quand je choisis mon chocolat, il faut que je regarde et je préfère le criollo.
C'est-à-dire que c'est en fonction de vos envies. À un moment donné, vous pouvez dire, tiens, au fond, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir des notes un peu plus subtiles, un peu plus florales. Et donc, je vous conseille d'aller sur un criollo. Mais un forastero, ça peut être très, très beau et ça peut être très bien fait. Les Trinitario qui l'hybrident des deux, de l'île de Trinidad, c'est aussi très intéressant. Mais pour revenir à Clara, et comment est-ce qu'on reconnaît un criollo? Ce sont les fèves, quand elles sont à maturité, au lieu d'être mauves, elles sont blanches. Et porcelana, c'est le mot qui vient là. Là, je vous ai amené, il y a d'autres endroits où on produit du criollo. Ici, ça vient du Venezuela et c'est une île qui s'appelle, donc l'île où on produit du chuao. Le chuao, aujourd'hui, c'est considéré, pour vous donner une idée, c'est considéré comme la Harmonie Conti de la fève de cacao. La valeur du cacao, c'est 2500 dollars sur 10 ans, cours boursier, 2500 dollars la tonne. Aujourd'hui, du chuao, si vous voulez avoir une tonne, 14 000 dollars pour avoir ça. Mais la particularité, c'est que quand vous regardez cette tablette, où on est à des hauteurs de cacao, on est à plus de 70%, vous la regardez, vous avez presque l'impression que c'est du chocolat au lait, tellement c'est clair, alors que c'est du chocolat noir.
Éric Birloez, nous avons commencé ce grand voyage de dégustation et de chocolat, évidemment en Amérique latine, parce que c'est là que toute l'histoire a commencé. Faut remonter où alors
pour... je reviens à ce que disait Pierre, qui me paraît très très juste, c'est qu'il y a deux facteurs clés de qualité, qui sont le terroir, et donc on va en parler, et puis évidemment la variété, le cépage dans le vin. Il y a un troisième facteur qui est extrêmement important, qui est le savoir-faire humain. Et les premiers peuples, les découvreurs du cacao, ils ont dû mettre quelques siècles avant de comprendre qu'il fallait faire fermenter les fèves de cacao, les torréfier, etc. Alors, l'origine du cacao, enfin du cacaoyer, très probablement, c'est pas l'Amérique centrale, mais le nord de la forêt amazonienne, donc Amérique du Sud. Mmh. Et puis, il y a des perroquets, il y a des oiseaux qui transportent des graines et qui les font tomber en Amérique centrale, et notamment dans le Mexique actuel, où vivent les Olmecs, il y a 3000 ans, qui sont les premiers, probablement pas à transformer les fèves en cacao, mais à consommer, ce que disait Pierre, la pulpe de cacao, et même à en tirer une boisson fermentée.
Ce qui entoure la fève. Voilà. Au début, on jetait la fève.
On savait pas quoi en faire. On n'avait pas encore eu l'idée de cette torréfaction. Mais cette pulpe, elle était sucrée, très intéressant. L'homme, spontanément, est attiré par le sucre. Elle était rafraîchissante. Et comme elle était sucrée, on avait mis au point des techniques très simples de fermentation. Et donc, ça permettait d'avoir un alcool de cacao, enfin je ne sais pas comment il l'appelait. Ça, c'est les Olmecs. Puis ensuite, on va avoir les Mayas, qui eux sont probablement les premiers à avoir transformer la fève en cacao, donc la torréfaction, enfin toutes les opérations dont on pourra éventuellement parler, et puis bien sûr les Aztèques qui, eux, venant du nord, se sont implantés au centre du Mexique et se sont mis à cultiver des cacaoyers. Juste un petit mot peut-être sur cet arbre dont on parle depuis le début, qui est quand même pour moi, agronome, un arbre extrêmement bizarre, curieux, le cacaoyer. D'abord, c'est un arbre qui n'est pas très grand et qui a besoin de compagnie. Il a besoin d'avoir des grands frères autour de lui, c'est-à-dire des grands arbres. Il est mieux quand il est protégé du soleil, enfin des rayons ardents du soleil, par ces grands arbres. Et puis, une des particularités de cet arbre, c'est qu'il fait beaucoup de fleurs, des milliers de fleurs, qui poussent sur le tronc, à la croisée des branches ou sur les grosses branches.
Déjà, ça c'est original.
Ce qui n'est pas, voilà. Et les fruits, du coup, ils vont sortir du... Imaginez un pommier ou un poirier, dont les pommes ou les poires sortent du tronc, ça nous ferait bizarre. L'autre particularité, c'est que ces fleurs, elles sont très nombreuses, mais finalement, elles sont... très petite, blanche, jaune, pas extrêmement attirante pour les insectes pollinisateurs. Elles n'ont pas de nectar, elles n'ont pas de parfum. Et donc, finalement, il y a à peine une fleur sur 100 qui va être pollinisée, fécondée et qui va donner un fruit. Donc, on a des milliers de fleurs, mais quoi, une centaine, même pas de, voilà, de cabosses au grand maximum. Voilà. Et en plus, dernière chose étonnante également, c'est que, à l'état, je dirais, naturel, le fruit ne tombe pas et donc les graines peuvent sécher à l'intérieur de la cabosse. Donc, il faut qu'un oiseau ou qu'un, pique de son bec la cabosse ou la fasse tomber pour que l'arbre puisse se reproduire. Donc, on a un arbre quand même qui est un petit peu particulier, ouais. Étonnant.
Pierre Marcolini.
Mais surtout aussi, ce qui moi me fascine à chaque fois que je vais dans les plantations de cacao, aujourd'hui on travaille avec 14 planteurs en direct, donc que ce soit en Amérique latine ou dans le reste du monde, ce qu'on appelle la ceinture du cacao. Ouais. Je pense qu'Eric reviendra effectivement là-dessus. C'est les couleurs. Les cabosses sont d'une couleur absolument extraordinaire. Vous pouvez passer du vert au jaune en passant par un rouge profond. Ça peut passer à du bordeaux. Et quand vous regardez le moment de la récolte, c'est juste magnifique. Et je voudrais revenir sur quelque chose qui reste et qui fait partie de la culture. On parlait du mucilage, effectivement, le fait qu'il y a 3000 ans, on buvait ou on suçait effectivement cette fève. Eh bien, il y a une tradition qui demeure. Je me souviens de cette tradition du côté du Brésil, la région de Salvador de Bahia, qui est la région vraiment du cacao au Brésil, et la capitale, enfin la ville s'appelle Ilhéu, chez João Tavares, et la première chose qu'il a fait, il a mis des fèves de cacao, donc avec fraîches. Ils ont récolté ce qu'on appelle ce fameux jus, et c'est ce qu'ils appellent le miel du cacao. Ah, ouais, et vous avez, ils coupent une cabosse en deux, et ils remplissent ça de mucilage, et ils vous l'offrent généreusement.
Ouais. C'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de cette culture du cacao qui est encore très présente dans les traditions. Je vous propose un autre exemple. Nous sommes dans une des dernières tribus mayas au Mexique.
La gente vivía trabajando en las milpas.
À cette époque, les gens travaillaient la milpa, le potager, on semait du maïs, des citrouilles, qu'on mangeait en famille. On plantait aussi du cacao pour le boire. On mélangeait le cacao et cela faisait beaucoup de mousse, c'était comme du chocolat. C'était une tradition quand la lune était pleine ou que venait la période des récoltes. On offrait du cacao aux gens qu'on invitait, des personnalités qui disparaissent petit à petit aujourd'hui, comme les chamans, les guérisseurs qui utilisaient des plantes médicinales pour soigner les douleurs.
Mais maintenant, il y a peu qui ne sont pas perdus, mais...
Aujourd'hui, ces traditions se perdent. Et ces gens-là sont de moins en moins nombreux.
C'était Ismaël, un Maya Lacandon, une tribu des forêts au Mexique, interrogé en 2006 dans l'émission Tout un monde. Alors il le dit, les traditions se perdent, mais elles sont encore à portée de génération. Et on s'en rend compte, le chocolat, c'est plus qu'une friandise, c'est associé à tout un monde. Et il y avait... une façon de le consommer aussi, une façon de l'associer à beaucoup de choses, Éric Birloise.
Oui, oui, alors qui était particulière et d'ailleurs qui n'a pas du tout été appréciée d'entrée de jeu par les Européens. Et c'est vrai que les Amérindiens de l'Amérique précolombienne, alors mélanger par exemple le chocolat avec de la farine de maïs, ça aussi c'est une plante américaine, mais donc on a quelque chose qui était beaucoup plus épais que le chocolat que l'on consomme aujourd'hui. Également du piment américain d'origine, là aussi, de la vanille, mm-hmm. là aussi, c'est une épice américaine, du rocou qui donnait une couleur, c'est un arbuste dont le fruit donne une couleur très rouge au cacao, et donc des usages qui étaient, bon, alimentaires, mais qui étaient aussi religieux, rituels. Théobroma, le nom scientifique, c'est du chocolat, du cacao, c'est la nourriture des dieux. Donc on rend hommage aux dieux en leur donnant ce qu'il y a de meilleur.
Et on va voir dans un instant à quelles nouvelles associations vous réfléchissez, Pierre Marcolini, parce qu'effectivement, on peut encore imaginer de nouvelles choses avec le chocolat. On poursuit nos explorations gourmandes, le temps d'un bivouac, à l'ombre des cacaoyers sur France Inter.
Chocolata, flip a dip a whipper cream in the middle of a hot, hot chocolata. Pick her up and drink her down. Square cake, round cake, piece of pound cake. Grab a chuck and dunk a hunk in the middle of a hot, hot chocolata. Pick her up and drink her down. Drink a lot of hot, hot chocolate. Flip a dip a whipper cream in the middle of a hot, hot chocolate. Pick her up and drink her down. Scorta, scorta, chocolate. Scorta, tutto che ne vedo una cosa che mi scorta, scorta, chocolate. La mia cotta fa passare. Matta, matta, sono matta. Più non lotto che le latte deletto tutti lotto, lotto. Son sepolta, più non tento di compare. When you're going loco, you're out of your coat. Drink a lot of hot, hot chocolate. Flip a dip a whipper cream in the middle of a hot, hot chocolate. Pick her up and drink her down. Chocolate, scorta chocolate. Bevo, bevo, bevo tanta chocolate. Chocolate. Drink a cup of hot chocolate.
C'était Hotta Chocolata et la Fitzgerald sur France Inter.
Ça, c'est le chant de ton père.
Oui, oui.
Ça, c'est le chant de son papa. Voilà, on y va.
Là, ça, c'est la coque du cacao. Et voilà les fèves. Ce qui donne la cabosse du cacao. Faut pas enfin arrêter de sucer la mon ami. On est sur un travail, nous sommes sur un travail, nous sommes sur un travail.
Non mais il ne peut pas m'en passer.
Mais après c'est comme ça, on finit le cabossage, on met tous les fers. Puis on ferme ça très très bien, bien fermé.
Et ça tu vas faire fermenter là?
Voilà, ça va fermenter là. La fermentation va à 6 jours. Et le 7e jour, on met ça au soleil pour sécher.
Quand le pisteur vient, bon. Il te dit où va ton cacao ?
Jamais. Lui vient, il vient avec son bascule. Il vient, moi j'ai mon cacao. Ah mon petit, ton cacao là c'est sec. Faut voir. S'il voit que c'est sec, bon moi je paye à 750. Bon, il n'y a pas de problème. On pèse. Il prend son cacao, moi je prends son argent. Et puis on se sépare. Ni vu, ni connu. Il charge le remorque et puis paf, il l'amène dans sa boîte. Puis c'est comme ça le cacao arrive au port, du port maintenant, destination inconnue. Mais nous savons que c'est la France qui prend le cacao de Côte d'Ivoire. Nous le savons très bien.
Un cultivateur de cacao en Côte d'Ivoire. Nous continuons à remonter la piste du chocolat avec le chocolatier pâtissier Pierre Marcolini et l'historien de l'alimentation Éric Birloez. Vous avez tout de suite réagi en entendant cet extrait, Pierre Marcolini, en me disant c'est le drame. Ils ne savent pas où va ce chocolat, leur production de fèves de cacao, et même ils ne le goûtent pas, ils ne mangent pas de chocolat.
C'est interpellant. Alors on ferme 30 secondes les yeux, imaginons en France qu'on cultive le vin et qu'on goûte pas le produit fini. C'est impensable. Et c'est ce qui se passe, c'est le drame. C'est que ces gens n'ont, d'abord, il y a aujourd'hui en termes de rémunération une vraie problématique, d'où le cri un peu alarmiste, 2050, il n'y aura plus de cacao, etc., etc. C'est surtout le fait que la rémunération n'est pas juste par rapport aux planteurs, et donc les jeunes ne veulent plus continuer par rapport à ça, puisque souvent les plantations de cacao sont des petites plantations de 2, 3, 5 hectares. La deuxième chose, effectivement, c'est moi ce qui m'avait surpris, c'est que ces gens n'ont jamais goûté le produit fini.
Quand vous y allez, notamment je crois que c'est dans des plantations au Cameroun, vous amenez avec vous certaines de vos, tablettes.
À chaque fois que je pars, je prends les tablettes et quand j'ai une première collaboration avec une plantation, puisqu'on a un lien direct, la première chose que je fais, c'est de lui renvoyer la tablette, de quand je passe, de lui faire goûter la tablette. Moi, je me souviens de Joa Tavares, et le Cameroun, c'est Christophe et Valérie, donc un couple de Français qui ont réhabilité dans la région du Dja une ancienne plantation de cacao. Mais il y a un moment d'émotion incroyable. On parlait de la magie du chocolat, qu'elle soit dans la dégustation, mais aussi dans la satisfaction. Eric l'a dit tout à l'heure, la main de l'homme, à un moment donné, intervient aussi dans le cadre de la fermentation, la valorisation de ce qu'ils ont réalisé, de ce qu'ils ont fait. Et puis moi, ce que j'essaye de faire, puisque la fermentation, c'est on emprisonne la partie aromatique. Et puis au moment où nous recevons les fèves, puisque le planteur disait, après la fermentation qui dure 6 jours, parfois elle peut durer 4 jours ou 7 jours, il y a ce qu'on appelle le séchage pour arriver à ce que l'humidité soit partie. On tient aux alentours de entre 7 et 3% d'humidité. Nous recevons les fèves et tout l'art de la torréfaction, et c'est au degré près, c'est effectivement de dire, je vais sortir toute la partie aromatique. Mmh. Et est-ce que je vais me retrouver dans la même partie aromatique que j'ai eue au moment de la découverte de la plantation?
Ça veut dire qu'il y a des surprises? Ça veut dire que dans tout ce processus, il y a effectivement, on peut pas toutes les donner, mais il y a 17 étapes, je crois, même plus, hein, pour fabriquer ce chocolat à partir des fèves. Et ça veut dire qu'au long de toutes ces étapes, il y a des surprises, il y a des arômes qui se révèlent, au contraire parfois des déceptions, des choses qu'on avait senties au début qu'on ne retrouve pas à la fin.
C'est évidemment toute la partie naturelle des choses, et heureusement d'ailleurs qu'elle existe. Il y a à un moment donné effectivement à la fois des surprises où on se dit on est en attente d'eux, un sublime trinitario, où vous dites, je me souviens moi d'une surprise plutôt très agréable qui a été un trinitario que j'avais ramené de Cuba, du côté de Baracoa, où j'avais rencontré un ingénieur agronome qui s'appelle Urbano et qui est un type juste sublime. Et je me souviens d'avoir pris ces fèves de cacao qui étaient gigantesques. Et ça, parfois, le fait d'avoir pas de production intensive, puisqu'il y a eu un embargo et on a protégé ça, des cacaoyers qui, en général, sont assez petits au niveau du tronc, là, étaient gigantesques. Et à la fin de tout ça, quand on a sorti ce qu'on appelle le chocolat de la conche, c'est l'étape finale avant de faire du moulage, etc., etc. Je vous garantis que quand j'ai goûté ce chocolat, j'avais l'impression que c'est une femme qui vous embrasse, qui vous étreint, mais c'était d'une volupté, mais absolument incroyable. Ouais. Et ça, c'est des moments qui sont magnifiques. Vous avez une idée, quand vous prenez la fève, quand vous la sentez, quand vous goûtez, vous dites, on va avoir des notes qui vont citrus, on va avoir des notes qui vont être plutôt florales ou épicées. Mais à un moment donné, après le travail de la torréfaction, après avoir broyé les fèves, et le grand secret du chocolat, n'oublions jamais que c'est une épice au départ, au plus vous allez broyer une fève, donc au plus vous allez descendre à moins de 25 microns, et vous allez avoir un chocolat qui va être aromatique d'une façon incroyable. Prenez de la cannelle, au plus vous allez écraser, au plus ça va être aromatique. C'est la même chose, c'est ce que nous faisons. On a des broyeurs qui mettent une tonne de pression, et quand vous avez cette poudre qui sort, et puis que vous allez concher, qui va homogénéiser cette pâte, c'est un moment magnifique.
Il faut savoir les faire parler, finalement, ces chocolats, ces fèves. Éric Birloez, on a dit que l'histoire avait commencé en Amérique latine. Là, on est arrivé en Afrique, mais aujourd'hui, c'est en Afrique qu'a lieu la plus grande part de la production de cacao.
Oui, oui, là, je regardais les chiffres de 2017, la Côte d'Ivoire, on a eu donc le son tout à l'heure, c'est 46% de la production mondiale de fèves de cacao, quasiment la moitié. À côté, il y a le Ghana, c'est 19%. Si vous rajoutez un autre pays limitrophe, le Cameroun, qui doit être à 6%, les deux tiers de la production mondiale, c'est l'Afrique, et pas le berceau, avec les problématiques que Pierre indiquait, de petits planteurs en Côte d'Ivoire notamment, qui baissent les bras parce que ils sont vraiment trop mal payés.
Donc on a la quantité, est-ce qu'on a la qualité aussi dans ces pays d'Afrique ?
Ça, peut-être, je me tourne vers Pierre, c'est peut-être un peu moins un peu moins sûr. Alors, il y a la ceinture, effectivement, comme on l'appelle, la ceinture du cacao, donc la zone intertropicale.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette ceinture, donc c'est les tropiques, on ne parvient à faire pousser les cacaoyers que...
On ne sait pas faire en Europe, par
dans
exemple.
Les zones tropicales.
Ça, c'est clair. Oui, oui. Ça, vraiment, la nature a gardé ses droits. Donc, en Asie également, l'Indonésie est un producteur significatif. Java, oui, de
Vietnam.
Le Vietnam, qui est un nouveau pays, qui se remet à faire des plantations de cacaoyers. Et puis, finalement, au Mexique, c'est très peu en termes de volume total. Par contre, il y a de la qualité.
Extraordinaire. Ouais.
Mais
Venezuela, pareil aussi.
L'Équateur,
Venezuela, le Mexique, le Brésil. Le Brésil a été un acteur, et puis il y a eu un gros problème de maladie qui a fait qu'il s'est un tout petit peu retiré. Ils étaient sur des productions quand même assez fortes. Madagascar reste un pays aussi où on dit toujours que Madagascar, et c'est ce que disait un jour Guerlain, c'est l'île des parfumeurs, mais c'est tellement vrai. J'y vais la fin du mois d'août pour aller à la rencontre effectivement de planteurs. On travaille 5 tonnes de fèves de cacao. Quand vous regardez Tana, et puis vous remontez, vous allez vers Nosibé, puis vous avez Ambave.
Décrivez-nous, parce que là, vous nous faites une liste
Ambave
de noms.
Et Sambarino. La première fois où j'avais été visiter une plantation qui s'appelle la plantation Milo, qui est tenue par un Français, et une des premières impressions, c'était d'abord des odeurs de ylang-ylang qui sont omniprésentes. Et puis je me souviens de ces dames qui étaient occupées à déraciner du vétiver, qui est un parfum que j'adore. Et c'était vraiment des impressions très fortes.
Alors, ces impressions de voyage, est-ce que vous vous en servez? Parce que vous êtes pâtissier et chocolatier. Après, il s'agit de créer de nouvelles saveurs, d'associer des goûts. Vos voyages vous inspirent pour ça?
Totalement. Et je suis un fervent partisan de me dire... Au lieu de commencer à prendre un livre, et vous savez, aujourd'hui, à la mode, aujourd'hui, le mot food pairing, et on essaye de trouver les associations les plus bizarres, et pourtant, je vous donne un exemple. Un jour, moi, j'ai pris de la noisette et de la truffe blanche. C'est tellement évident dans le Piémont, parce que le sol produit ça. Et quand vous mettez de l'ylang-ylang, que vous mettez de la vanille, que vous mettez du poivre et que vous mettez du chocolat, eh bien, ce sont des associations qui fonctionnent bien parce que c'est déjà dans la nature. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Et donc, c'est le genre de chose qui peut être étonnante, mais qui marche très, très, très bien. Mmh. Un chocolat avec un poivre, c'est magnifique. Un chocolat avec de la vanille, on sait que c'est superbe. Mais un chocolat avec un côté floral, c'est superbe aussi.
Alors, dans votre
livre, c'est tellement délicat.
Dans votre livre, Pierre Marcolini, Chocolat, carnet de voyage, vous donnez beaucoup de recettes, des recettes un peu étonnantes. Il y en a une du cabillaud sauce hollandaise au chocolat. Il y a certaines associations, on n'aurait pas osé, si vous ne nous l'aviez pas suggéré, le faire soi-même. Donnez-nous-en une peut-être là, une petite recette facile à faire, une association étonnante.
Alors, il y en a une qui m'avait surpris un jour, visite à Barcelone chez mon ami Fernand Adrià. Et Fernand, qui est un des grands chefs créatifs, il me dit, écoute Pierre, j'ai envie de te faire goûter un truc. Il prend un petit morceau de pain, vous savez, genre bruschetta. Et il le prend, il met une sublime huile d'olive, il prend un carré de chocolat, il passe légèrement au grill, un peu au four, mais ça dure... Allez, 30 secondes, le temps que le chocolat commence à se laisser aller, le temps que le pain se met en place, ça croustille un petit peu, vous sortez, vous mettez un peu de fleur de sel, et vous m'appelez après.
De l'huile d'olive.
De l'huile d'olive, chocolat, un peu de fleur de sel, et le pain, et c'est juste magique. C'est juste magique. Et c'est là qu'on se rend compte que le chocolat est une base aromatique très très forte et qui supporte beaucoup de choses. Et donc et qui aura toujours toute sa place. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de fois où on se dit pas, tiens, on a un très très beau vin, on est sur un Côte du Rhône, on est sur un Châteauneuf du Pape, on est sur de la Syrah, on est sur du Grenache, fruits rouges, et on se dit, on prendrait pas un carré de chocolat, là. Ben, ça marche.
Vous êtes en train de nous régaler, de nous faire saliver. On va le déguster, ce chocolat. Les suites de nos aventures gourmandes dans un instant. Vous allez nous dire si la pénurie de chocolat guette, effectivement, comme certains le prétendent. Et puis, vous nous donnerez encore de petites recettes, Pierre Marcolini, inspirées de vos nombreux voyages. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter. The Gift, c'était The Liminanas sur France Inter, le temps d'un bivouac.
C'est magnifique.
Quoi ? Oh oui, vraiment magnifique. Chaque goutte de la rivière est du chocolat fondu de la meilleure qualité qui soit. La cascade est des plus importantes. Elle mélange le chocolat, elle le fouette, elle le rend léger et mousseux. Soit dit en passant, aucune autre chocolaterie au monde ne mélange son chocolat avec une cascade, mes chers enfants. C'est aussi vrai que 2 et 2 font 4.
Extrait du film Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, inspiré du livre de Roald Dahl, Pierre Marcolini. Vous avez lu Charlie et la chocolaterie étant
petit ?
Je l'ai vu,
oui.
Ouais. Ouais. Et alors, si vous l'avez vu, c'est pas en lisant ce livre que vous avez eu envie, vous, de... D'où vient votre passion du chocolat ?
Alors, ma passion du chocolat vient d'un fait marquant. C'est de me dire que quand vous avez 9 ans et que vous échangez vos jouets pour avoir des morceaux de chocolat, il y a un problème.
Ouais.
Et donc j'ai résolu le problème en me disant que je devenais chocolatier.
Ouais.
Et ça a été ça. Et je pense que la première chose, le premier constat, c'était d'échanger mes jouets pour des desserts. Le deuxième, c'est d'être rentré dans une école et de me dire, vous savez, vous dites c'est une évidence. J'avais 14 ans et j'ai déposé mes bagages en me disant c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis la révélation de créer mon propre chocolat, elle me vient, c'est Elle me vient de France, elle me vient de Lyon. Une chocolaterie comme il existait des chocolateries au début du XXe siècle, c'est la chocolaterie Bernachon. Et je me souviens du grand-père Bernachon, j'étais en 95 et je visitais ça, je me lançais dans le métier de chocolatier. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, les chocolatiers ne fabriquent pas leur chocolat. Ils travaillent ce qu'on appelle une couverture. Et il y a encore des anciennes chocolateries en France, comme quelques-unes en Europe, qui continuent à perpétrer ce métier, c'est-à-dire la transformation de la fève de cacao. Et quand je suis sorti de là, j'ai dit je veux faire ça. Ouais. Et le gros souci, c'est qu'il n'existe plus d'école où on apprend à faire son propre chocolat. Et donc j'ai été autodidacte pendant quelques années. Donc c'était des essais-erreurs, des moments de doute, des moments d'angoisse.
Pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que vous ne partez pas de cette pâte que vous faites fondre pour faire votre chocolat. Vous partez des fèves et tout le processus. Exactement, ouais. C'est vous qui le prenez en charge dans votre chocolaterie.
Exactement, ce qu'on appelle une intégration verticale et en plus la fierté de d'avoir un dialogue évidemment avec les planteurs et effectivement avec beaucoup de naïveté au début des années 2000 de débarquer dans des pays où j'arrivais en me disant il y a les trois grandes familles qu'on connaît, Criollo, Forastero, Trinitario. Le national équateur est un petit peu à part. Et c'est là où les planteurs m'ont dit, mais attends, il y a tel type de fève. Et j'ai découvert, vous savez, c'est comme quand vous faites le tour d'une pièce et vous dites, je connais mon métier. Et puis, au bout, vous vous dites, tiens, il y a une nouvelle porte que je ne connaissais pas. Vous l'ouvrez et vous découvrez un nouvel univers. Et le métier de chocolatier, c'est cette transformation-là. C'est effectivement de dire, comment est-ce que je peux torréfier? Comment est-ce que je vais broyer? De quelle manière? De quelle façon pour essayer de sortir un maximum d'arômes? Je vous vois muni d'une tablette.
Oui, j'ai un exemplaire de votre production de chocolat. Et je voudrais que vous nous aidiez à déguster le chocolat et à nous dire comment on reconnaît un bon chocolat. Alors là, vous n'allez pas me dire qu'il est mauvais, c'est vous qui me l'avez donné, c'est vous qui me l'avez apporté, c'est le vôtre. On va le goûter, hein, Eric Birloez.
Je veux bien le goûter aussi.
Hein. Ah oui, vous avez le droit d'en
d'accord,
manger.
D'accord, je remercie.
Je partage voilà. La tablette.
Donc le chocolat, première chose, effectivement, il doit être brillant, il doit être cassant. C'est ce qui se passe avec Eric, merci Eric. Et la deuxième chose, pas trop vite, c'est d'abord, c'est de le sentir. Donc un chocolat, ça vous dégage de sentir un chocolat, c'est comme un vin. Il faut vraiment le sentir et vous sentez déjà les effluves de cacao. On sent déjà énormément les effluves de cacao, donc c'est un chocolat qui est frais. La deuxième chose, effectivement, c'est de le casser et la magie va s'opérer. Pourquoi elle s'opère ? Simplement parce que dans un chocolat, dans une fève de cacao, quand vous l'écrasez, vous avez entre 35 et 45% de beurre de cacao. Matière grasse. Et donc, qui dit matière grasse, dit véhicule aromatique. Elle a une particularité, cette matière grasse, ce beurre de cacao. Ce qui est magnifique, c'est qu'elle a la même température de fusion que le corps humain. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand vous mettez en bouche, le chocolat va commencer à fondre et le beurre de cacao va jouer son rôle. On parlait d'une cascade de chocolat. En bouche, vous avez une cascade aromatique qui va se passer. Mmh. Et vous commencez à déguster le parti rétronasal et vous amenez de l'air. Et là, vous allez commencer à découvrir toutes les parties qu'on peut avoir, acidulées, notes de fruits jaunes. Et puis, effectivement, un côté floral. Et puis, ce qui va se passer pour un très bon chocolat, il y a ce qu'on appelle l'effet de Caudalie. C'est quoi l'effet de Caudalie? C'est comme dans le monde du vin. C'est la persistance du goût quand on a fini la dégustation et qui va déterminer que c'est un bon chocolat et pas des notes de sucre.
On suce ou on croque quand on savoure un chocolat?
Ici, il est un tout petit peu épais, c'est voulu, donc on va le croquer. Et le fait de le croquer, de le mâchouiller, de passer de l'un à l'autre, on joue en fin de compte. Mm-hmm. On joue en fin de compte. Il se balade en bouche. Et puis, à un moment donné, il va tellement être fondu que là, vous prenez effectivement une bonne respiration et toute la partie aromatique arrive.
Alors, Eric Birloez, je vous fais pas un cadeau parce que vous êtes en train de manger.
Oui, j'ai la bouche pleine de chocolat, mais je vous écoute.
Il va falloir finir le chocolat rapidement. Mais toutes ces vertus, alors aphrodisiaques, thérapeutiques, pendant longtemps, le chocolat, ce n'était pas juste une friandise. On y associait beaucoup de vertus.
Oui.
Est-ce qu'elles sont valables ou est-ce qu'il faut aimer le chocolat pour le chocolat sans chercher à en faire un médicament?
Oui, moi j'aurais tendance à dire... Alors c'est vrai que le chocolat aujourd'hui, il est un petit peu... Alors on met en garde contre l'excès de chocolat parce qu'on rappelle que 10 grammes ou 100 grammes de chocolat, c'est 500 kilocalories, mais on n'est pas obligé d'en manger beaucoup. Et puis la santé, ça n'est pas que la santé du corps physique, c'est aussi la santé mentale et la santé sociale. On se fait du bien et on partage le chocolat avec d'autres. Et donc, du coup, on a quelque chose qui est, à mon avis, qui équilibre plus que largement les éventuels effets peut-être négatifs d'une trop grande consommation de chocolat. Après, on a fait des analyses chimiques, évidemment, et on a mis en évidence des molécules intéressantes, du magnésium, de la théobromine, etc. En même temps, il ne faut pas en faire tout un plat. Et c'est vrai que il en va du chocolat comme pour les autres épices. C'est que quelque chose qui est rare, qui est précieux, ce qui était encore le cas il y a 150 ans, on va lui conférer des tas de vertus. Entre autres, des vertus aphrodisiaques. On dit que le Moctezuma, qui était l'empereur des Aztèques que rencontre Cortés, eh bien, il boit 50 tasses de chocolat par jour dans une tasse d'or et qu'il peut honorer dignement son harem composé de quelques dizaines de femmes.
Aujourd'hui, de nouveaux pays s'ouvrent au chocolat, parmi eux la Chine.
Supermarché de Jinglong dans un quartier plutôt huppé de Pékin. Au milieu des chinoiseries, on trouve bien un petit rayon de chocolat. Il y a quelques années, on n'aurait même pas trouvé ce petit rayon. Le chocolat était un produit très exotique pour étrangers. Il a trouvé sa place aujourd'hui grâce à un argument qui donne bonne conscience à tout le monde.
J'en achète seulement depuis quelques années, car c'est bon pour la santé. Il faut prendre soin de soi quand on est vieux.
J'en achète pas beaucoup pour ma fille, car il y a trop de sucre, mais seulement de temps en temps parce que ça calme.
J'aime bien. Mais j'en prends pas souvent, parce que c'est cher.
Oui, c'est vrai, le chocolat est sensiblement plus cher qu'en France, ce qui explique que les Chinois n'en consomment en moyenne que moins de 100 grammes par personne et par an. Mais ils sont 1,35 milliard.
Extrait du journal de France 2 du 19 février 2014. Alors Éric Birlouez, allons-nous manquer, oui ou non, de chocolat si les 1,35 milliard de Chinois se mettent à en manger autant que nous?
Oui, les Chinois et pas que d'ailleurs, hein, les Indiens également, mais c'est vrai que l'émergence d'une classe moyenne qui a du pouvoir d'achat, notamment en Asie, crée une demande qui est importante. Alors effectivement, pour répondre à cette demande qui est croissante, on a voulu, quand on cultive le cacaoyer de manière intensive, on a voulu accroître la productivité. On se rend compte aujourd'hui que c'est quand même des modèles qui arrivent, qui sont un petit peu aujourd'hui à bout de souffle. Mmh. Donc il y a effectivement cette demande très importante. Et puis la problématique quand même du réchauffement climatique qu'on va pas développer et qui fait que, ben, évidemment, on risque d'avoir des problèmes de production à certains
endroits.
Je
sens quand même que Pierre Marcolini, qui a ouvert d'ailleurs, je crois, des boutiques en Chine, je vous vois dodeliner à chaque fois qu'on évoque cette question chinoise. Pour vous, il n'y a pas péril en la demeure.
Non, je vais vous expliquer en quelques mots. Le marché du chocolat, comme je le disais tout à l'heure, c'est 2 500 $ la tonne. Aujourd'hui, un planteur, il en reçoit, avec les intermédiaires, etc. 2 500, c'est sur 10 ans, hein, j'ai fait une moyenne. Il en reçoit 1 500. Donc ça veut dire qu'il n'entretient pas la plantation de cacao, effectivement, et donc il n'y a plus d'intérêt, effectivement, à cultiver ce genre de produit. L'OMC a décrété que pour pouvoir vivre de la culture de cacao, il faudrait payer au minimum les investissements, etc., 3 500 $. On y est loin. Aujourd'hui, il y a un mouvement de jeunes chocolatiers qui s'appelle le mouvement Bean to Bar. Mmh. Et donc, je prends un exemple. Aujourd'hui, la maison Marconi paye entre 5 000 et 7 000 $. Je vous donne le numéro de téléphone de Joan Tavares. Vous l'appelez, vous lui dites, est-ce qu'en 2050, il n'aura plus de cacao? Il éclate de rire. Parce qu'il a sa juste rémunération. Oui. Et c'est là le problème. Mmh. Que la Chine se réveille et demain matin, qu'on paye convenablement la rémunération des planteurs, il n'y aura pas de problème. J'entends Eric sur le réchauffement de la planète. Il a totalement raison. Mais alors, c'est pas que le chocolat, non. C'est aussi le café, etc., etc. Donc, revenons de façon beaucoup plus sérieuse. Le souci, par contre, de la Chine et de la côtoyer aujourd'hui, c'est qu'on a, un pays qui, pendant 30 ans, on leur a fait croire que le candy bar, donc ce qu'on connaît, hein, je ne vais pas citer les marques, c'est du chocolat. Et donc, on doit évangéliser, ou l'inverse, pour essayer de faire comprendre qu'il y a des chocolats de qualité, des chocolats de grand cru, des chocolats qui ont été faits avec amour et passion, et que ce n'est pas tout à fait la même chose.
Pierre Marcolini, vous nous voilà rassurés. Allez, en 20 secondes, une autre recette, une autre façon de déguster le chocolat avant de vous laisser partir parce que vous devez filer après.
Chocolat chaud à partir de l'eau. Les gens prennent du lait, prennent en général des matières grasses. Revenons sur le fait que le chocolat contient du beurre de cacao. Vous prenez 500 grammes d'eau, vous mettez 150 grammes de chocolat, et quand ça boue, vous mettez vos morceaux de chocolat, surtout un mixeur plongeant. Ça, c'est le secret. Et vous allez avoir un chocolat qui est juste magnifique. Et si vous avez envie de zester un tout petit peu d'orange dessus, c'est juste parfait, ou un peu de cannelle.
Merci Pierre Marcolini, auteur de Chocolat, carnet de voyage aux éditions de La Martinière. Et puis merci Éric Birloise, dont on peut lire l'article Chocolat, goûter divin à la cour des rois, dans le 3e numéro de la revue Relief. Allez, restez avec moi Éric, dans un instant, nous irons en Bolivie, dans le désert d'Uyuni. Pas le moindre cacaoyer à l'horizon. Nous tenterons de joindre Alban Tessier. Il est malvoyant et tente la traversée seul de cet immense désert de sel. C'était l'aube de Canaries sur France Inter, le temps d'un bivouac. La programmation est signée Djoubaka et nous allons à présent tenter de joindre Alban Tessier, malvoyant. Il s'est lancé pour défi de traverser seul et à pied le désert d'Uyuni en Bolivie. C'est le plus grand désert de sel du monde.
Allô.
Sur France Inter.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, mais c'est le satellite qui attend.
Oui, c'est le satellite, bien sûr.
L'aventure en direct.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il.
Bonjour, Alban Tessier.
Hola, hola.
Alors, quelle heure est-il là où vous vous trouvez actuellement?
Alors là, il doit être... il est 17h40 chez vous, c'est ça?
Oui, 17h53, pour être plus exact.
Il est 11h53.
Alors vous êtes parti le 17 juillet dernier, vous vous trouvez donc actuellement dans ce désert d'Uyuni, ce grand désert de sel blanc. Je rappelle que vous êtes malvoyant, décrivez-nous la façon dont vous ressentez l'environnement dans lequel vous êtes, ce que vous en percevez.
Alors ce que j'en perçois, c'est d'un calme comme on n'a pas chez nous. Il y a pas âme qui vive. J'entends des fois des 4x4 qui passent au loin, mais autrement, hormis le vent, hormis le soleil qui cogne fort par moment, ce matin on avait même de la neige de façon importante. Mais autrement, non, c'est une sensation très agréable.
Alors vous êtes parti depuis 2 jours. Comment ça se passe pour le moment et quelle distance vous avez parcouru? Vous êtes seul, hein, vous êtes en autonomie.
Oui, alors en autonomie, je relativise un petit peu parce que j'ai une équipe d'assistance où il y a un médecin en fait qui est là pour en cas de souci, mais en fait on a été obligé de faire appel plusieurs fois à eux puisque j'ai eu des soucis techniques avec le matériel.
D'accord, donc ils sont à distance, mais ils sont déjà intervenus plusieurs fois.
Voilà, c'est ça, tout à fait, tout à fait.
Et alors comment ça s'est passé?
Donc, comment ça s'est passé jusqu'ici? Alors les deux premiers jours, il a fallu se caler un petit peu avec l'outil de guidage, puisque c'est ce qui me permet aussi de me repérer sur le Salar. Mm-hmm. Même si je l'avais déjà utilisé en France, mais forcément dans cet environnement, c'est un peu différent. Donc j'ai parcouru un peu plus de distance que prévu, j'ai fait pas mal de zigzags. En réel, je dois être à peu près à une vingtaine de kilomètres, et en distance parcourue par rapport au point qu'on s'était fixé, je suis à une quinzaine. Donc c'est quand même relativement plus.
Et alors pourquoi vous êtes lancé dans ce challenge qui en surprendra plus d'un, hein. C'est vrai, seul, même s'il y a des médecins pas trop loin pour intervenir, vous êtes malvoyant dans ce désert ultra lumineux. En plus, il faut que vous vous protégiez les yeux, hein, parce que le désert est blanc et réfléchit incroyablement la lumière. Pourquoi vous vous êtes mis dans cette galère?
Alors, il faut resituer les choses un petit peu. Je fais partie d'une association qui s'appelle La Perte de Vue, qui a pour objectif de sensibiliser à la déficience visuelle, hein, de montrer en fait que le handicap, ben, c'est pas une fin en soi, qu'on peut faire un certain nombre de choses avec des outils techniques, avec des méthodes qu'on peut appréhender au fil du temps, et puis aussi avec de l'aide humaine, puisque bon, il faut savoir que on a beau avoir toute la technique et tous les apprentissages possibles, ben, il y a des choses qui restent complexes, des situations de handicap qui sont là. Mais voilà, l'idée c'est pas de rester sur son canapé et attendre que les choses se passent ou à se morfondre. Moi, ma philosophie de vie, c'est toujours de me dire que ben, y a toujours pire en fait. Donc je suis relativement en bonne santé au-delà de cette maladie. Je peux faire du sport, je travaille, je suis marié, j'ai deux enfants. Voilà, la vie est belle quand même.
Alors justement, on va en profiter pour les rassurer, votre femme et vos enfants. J'imagine qu'ils sont au courant, mais vous avez dit il y a eu quelques petits soucis, ouais. Les médecins ont dû intervenir, mais pour le moment, vous allez aller au bout de l'aventure. Tout se passe bien pour vous?
Oui, oui, tout va bien. Tout va bien. Bon, il y a des petites galères cette nuit. J'ai cru que ma tente allait s'envoler, j'ai un ancrage qui est parti et il y avait beaucoup beaucoup de vent, c'était la tempête. Et puis ce matin, je me suis réveillé sous la neige. Alors c'est assez étonnant parce que comme l'environnement est forcément très salé, il n'y avait pas de neige autour, mais tout était concentré sur ma tente, comme s'il avait neigé juste sur moi.
Ah oui, c'est ça. En plus, blanc sur blanc, hein, parce que ce désert est immensément blanc. Hein. J'invite les auditeurs qui ne connaissent pas à aller regarder sur Internet. C'est vraiment un lieu très particulier, hein, sur notre planète où vous vous trouvez actuellement. Et évidemment, on a l'impression déjà que c'est couvert de neige. Donc de la neige sur ce désert de sel, ça doit être assez surprenant. Vous nous dites aussi qu'il fait très chaud, que le soleil tape, qu'il y a de la neige. On a l'impression que vous avez affaire à des écarts de température assez prodigieux.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Les températures sont très changeantes, même dans la journée, en fait. Il suffit que le soleil se voile un peu, qu'il y ait le vent qui se lève. On est sur des températures relevées aux alentours de 15-20 degrés en journée, mais le ressenti peut être beaucoup plus important ou inférieur. Et puis la nuit, par contre, c'est vrai qu'il fait très froid, on est sur des températures négatives. Alors moi, j'ai pas pu vérifier combien il faisait, mais cette nuit, il faisait beaucoup plus froid que la nuit dernière. Le vent et l'humidité, du coup, qui est plutôt rare ici et quasi anormal à cette période de l'année, faisait que le froid était vraiment difficile à gérer.
Merci Alban Tessier. On vous souhaite bonne route, hein, pour la suite de votre périple. Il vous reste encore quelques jours, 4 ou 5, je crois, à parcourir. Bonne ouais. route à vous, bonne chance. Et encore bravo pour cet exploit que vous êtes en train d'accomplir. Mmh. Au revoir.
Merci à vous, bonne journée.
Demain à 16h, nous partirons à la rencontre de peuples autochtones menacés de disparition en compagnie du photographe Pierre de Vallombreuse et du géographe et écrivain Éric Julien. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et à tout de suite avec Julia Molcou pour un nouveau Mac de l'été, bien sûr. Bonjour Julia.
Bonsoir Daniel.
Au programme.
Ce soir, nous recevons Mathieu Sapin, le dessinateur, l'illustrateur, mais devenu très récemment réalisateur.
C'est vrai, on rêverait de l'inviter pour nous parler de son voyage avec Gérard Depardieu.
Il est là dans les couloirs,
on va essayer de l'attraper aussi. À tout à l'heure.